utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons France, le magazine des radios associatives du Nord de la France, un quatrième numéro consacré à la santé dans la région, animé par Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé, Julien Maille de Radio Plus.
Bonjour. Bonjour, et un quatorzième numéro Marjolaine, non pas un quatrième, et donc Marjolaine Labelle de Radio Boomerang.
Suite à la fusion des régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, quel état des lieux peut-on établir entre les différents territoires de cette nouvelle région en matière de santé? Quels ont été les impacts des précédentes campagnes de santé publique menées auprès de nos concitoyens? Quelle pourrait être la prochaine politique de santé publique du nouveau conseil régional? Pour l'évoquer avec nous, Monsieur Olivier Lacoste, directeur de l'Observatoire régional de la santé en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ainsi que Monsieur Renaud Daugimont, directeur du centre hospitalier de Douai. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Monsieur Olivier Lacoste, justement, quel bilan comparatif peut-on établir entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie en matière de santé, en sachant que l'espérance de vie est la plus faible de France dans le Nord-Pas-de-Calais et le taux de mortalité est de 27% supérieur à la moyenne nationale?
Alors, le bilan, c'est un gros point de comparaison entre les deux régions. Des indicateurs de santé qui sont similaires entre les deux anciennes régions, le Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Depuis les années 50-60, régulièrement, Picardie et Nord-Pas-de-Calais se situaient systématiquement soit à la dernière place de la région française ou à l'avant-dernière. Donc là, c'est un gros facteur de ressemblance et d'unité, effectivement.
Monsieur Renaud Daugimont, d'après ce constat établi par Monsieur Lacoste, disposez-vous de moyens suffisants, d'autant plus que dans le territoire du Douaisis, le taux de mortalité est l'un des plus élevés de France?
C'est vrai que sur le Douaisis, on a des indicateurs de santé qui ne sont pas bons. On est 343e sur 348 territoires de santé, donc des moyens, je pense notamment des moyens humains. Il est clair que dans les hôpitaux comme dans les structures de ville, on souhaiterait avoir davantage de moyens. Maintenant, ces moyens ne sont pas là. On a une tendance démographique de long terme qui est la baisse du nombre de médecins, d'infirmières libérales, de pharmaciens. Donc face à cela, je pense qu'il faut plus qu'on raisonne en se disant comment est-ce qu'on va fonctionner dans les années à venir et quel rôle chacun peut jouer, que ce soit un acteur hospitalier, un acteur de ville. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour mieux soigner notre population et quelque part unir nos forces dans des contextes qui sont à chaque fois spécifiques. Sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on a le mélange entre l'extrême urbanité et puis de l'autre côté des milieux ruraux. Eh bien, comment à chaque fois les acteurs institutionnels, les acteurs de ville doivent travailler ensemble pour bâtir un projet de santé sur ce territoire-là.
Monsieur Lacoste, il y a des similitudes, mais il y a quand même des différences entre ces deux régions, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais?
Alors, pour ce qui est de l'état de santé, assez peu de différences, exception faite de la métropole lilloise, qui, bien qu'étant la seule capitale régionale qui soit en surmortalité par rapport à la France, va un peu mieux. Bon, mais... on pourrait revenir plus tard, ils n'ont pas trop de mérite à aller mieux. La grosse dissemblance, ça va être sur l'offre de soins. Le Nord-Pas-de-Calais est une région hyper dense, hyper urbaine, avec des problèmes de répartition de professionnels de santé, mais il y a tout ce qu'il faut. On s'inquiète un peu pour l'avenir, mais il y a tout ce qu'il faut. Pour la Picardie, on n'est absolument pas dans le même cas de figure. C'est une région de petites villes moyennes, avec une périphérie qu'on considère comme rurale, où là, l'offre en professionnel de santé, l'offre de soins qu'on destine à la population est beaucoup plus faible et n'est pas, on ne s'attend pas à ce que ça s'améliore et à ce que ça se développe dans les années à venir. Et ça, c'est une grosse question pour l'avenir.
Entre la réforme des politiques publiques engendrée sous Nicolas Sarkozy, la dernière loi de santé et la récente fusion de ces régions, quelles ont été les principales conséquences et celles à venir au regard de l'offre de santé dans tous les territoires, selon par rapport à ce que vous en pensez?
Les principales conséquences de ces réformes, je pense que ça a permis aux établissements de santé de prendre conscience qu'ils devaient travailler ensemble. Je pense que face à une pénurie de moyens, notamment médicaux, il faut obligatoirement qu'on réfléchisse à l'échelle de nos territoires et plus de manière, je veux dire, centrée sur le fonctionnement d'un hôpital. Et je pense qu'il faut qu'on aille justement dehors, qu'on se rende en ville pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut soigner autrement les gens. Je pense que ça, c'est une des grandes conséquences des dernières lois de santé. C'est cette nécessité vraiment accrue pour les acteurs de santé de travailler ensemble.
Alors, on va parler de l'accès aux soins et justement, vous, au niveau du centre hospitalier de Douai, vous menez des opérations hors l'hôpital.
Oui, on mène des opérations en fait qui ont reposé à un moment donné sur un constat simple, c'est que les hôpitaux sont de belles vitrines technologiques, on a des gens qui sont extrêmement compétents dans nos structures, mais on peut parfois avoir l'impression qu'on est quelque part une oasis de prospérité médicale, et puis qu'autour de nous, il y a quoi ? Ben, il y a les quartiers, on sait qu'il y a des inégalités territoriales qui sont importantes, on sait par exemple que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a deux fois moins de médecins généralistes que dans la moyenne nationale, et que dans les quartiers fragiles identifiés par la politique de la ville, il y a deux fois moins de médecins généralistes. Donc vous voyez qu'on a un effet cumulatif de ces inégalités sociales et territoriales contre lesquelles il faut qu'on lutte. Et c'est la raison pour laquelle on a positionné l'hôpital vraiment résolument comme un hôpital de quartier dans lequel on ne va pas attendre que ce soit les personnes les plus fragiles qui rentrent à l'hôpital par le biais généralement des urgences et très peu finalement par des hospitalisations directes. Or, on sait que le passage aux urgences est quand même une source de stress, une source de dégradation de l'état de santé pour les personnes fragiles et notamment pour les personnes âgées. Donc c'est pour ça qu'on a inversé la tendance et on s'est dit l'hôpital de Douai, ça doit être un hôpital dans sa ville et un hôpital de quartier. Donc c'est pour ça que résolument, on positionne nos professionnels aux côtés des acteurs de santé qui sont déjà implantés. Par exemple, les maisons de santé pluriprofessionnelles, il y a 3 projets sur le Douaisis. Quel rôle peut avoir l'hôpital public pour aider à ces nouveaux modes d'exercice en ville ?
Monsieur Lacoste, ce problème de santé dans, on peut dire, l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, eh bien, c'est pas nouveau. Et finalement, ça perdure. Pourquoi aujourd'hui, ça perdure, ce problème de santé récurrent ?
Alors, c'est la grande question que tout le monde se pose. Alors, il y a des facteurs de fond, hein, qui sont la situation socio-économique de la région, des comportements alimentaires qui pourraient s'améliorer, etc., etc. Ça, c'est, il faut pas, jamais oublier ça. Maintenant, il faut bien reconnaître que c'est une région qui a besoin de savoir-faire, ce que nous on appelle l'ingénierie, et ce que Monsieur de Gimont vient d'expliquer sur comment on arrive à concevoir des choses qui ont des chances de fonctionner et d'avoir des résultats. Il y en a un très très gros besoin dans cette région. Je vous cache pas que ça m'arrive très souvent d'expliquer à mes étudiants, ça serait bien qu'on arrête d'avoir du succès par inadvertance dans cette région. On a des, grosso modo, le bilan que vous faites, c'est, faut reconnaître les choses. On a manqué d'ingénierie, on a manqué de savoir-faire, parce que le savoir-faire, l'ingénierie, souvent il partait plus au sud, hein, il était absorbé par Paris ou il allait dans d'autres régions. Donc avoir des acteurs de santé, des professionnels de santé, et que tout le monde s'y mette pour essayer de concevoir des choses qui ont des chances de fonctionner, ça va être l'avenir. Et bon, maintenant le temps passe et ceux qui étaient là il y a 20 ans ou 30 ans, ils sont plus là. On peut quand même admettre qu'on a manqué singulièrement de savoir-faire dans cette région.
Après cette première partie de ce magazine Parlons France consacré à la santé dans notre région, voici une petite pause musicale avec Carmen Maria Vega avec les antidépresseurs.
On me propose mais je ne sors pas, je veux pas me retrouver dans un bois traîné par un fou sanguinaire qui voudrait me couper les doigts. J'ai lu des histoires comme ça. L'autre soir en sortant de chez le docteur, qui d'ailleurs me connaît par cœur, tout à coup je sens derrière moi un homme que je ne connais pas.
Ça y est, cette fois c'est pour moi.
Ça c'est fini chez le psychiatre, pour ne plus me laisser abattre. Il m'a dit que sortir c'est bien, au lieu de regarder TF1, qui nous font flipper pour rien. En plus il m'a donné des cachets, depuis j'ai retrouvé la paix. J'en ai des roses, des verts, des blancs, et toujours deux entre les dents. Wow, hey. Je me souviens plus très bien, depuis les antidépresseurs. Je n'ai plus peur de rien, ni du soir, ni du quotidien. Je souffre sans
La radio autrement.
Vous êtes toujours à l'écoute de Parlons Franf, consacré à la problématique de la santé dans notre région, en compagnie de Monsieur Olivier Lacoste, directeur de l'Observatoire régional de la santé en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et de Monsieur Renaud Daugimont, directeur du centre hospitalier de Douai. Avec Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé, nous allons évoquer tout de suite avec vous l'accès aux soins.
En effet, Marjolaine, on en parlait en première partie d'émission, mais face au manque de professionnels de santé dans la région, des maisons de santé pluridisciplinaires ont été et sont toujours créées dans les territoires. Dans le milieu rural près de Bapaume, la maison médicale de Croisy compte une dizaine de salariés avec praticiens, secrétaires, comme l'explique d'ailleurs François Deguine, il est kinésithérapeute.
C'est un regroupement de professions de santé médicales et paramédicales. Il y a eu à l'origine un puis deux médecins qui se sont associés, qui sont restés associés longtemps. Et puis après, le village a grandi, il y a eu plus de monde. Donc trois médecins, deux infirmières. Est venu se greffer une podologue, puis des kinés depuis plus de 20 ans, je pense. À l'heure actuelle, on est trois kinés, sage-femme, arrivée récemment parmi nous. Et une orthophoniste qui ne peut pas travailler dans nos locaux parce que nos locaux sont trop petits, on devrait déménager d'ici, le projet est depuis longtemps, on va déménager dans Croisy sur des plus grands locaux. Et donc l'orthophoniste travaille en dehors de chez nous, mais bientôt on va tous travailler ensemble. L'intérêt de travailler ensemble, c'est d'avoir des agendas partagés, d'être sur place et de se croiser, pouvoir faire des transmissions en direct d'humain à humain sans forcément passer par une machine, un ordi ou... Voilà. C'est plus simple parce qu'il y a les secrétaires. Les secrétaires gèrent les agendas de tout le monde et ont accès aux agendas de tout le monde. Entre praticiens, c'est plus simple, effectivement, en ce qui me concerne pour ma profession à moi, pour le médecin de venir me voir et me dire « Ah, bah tel, j'ai mis de la kiné, est-ce que tu penses, est-ce qu'il faut... » Pour convenir des soins, c'est quand même plus facile de se voir. C'est plus simple ensemble. Plus simple d'embaucher des gens dans le... conditions économiques actuelles. Et maintenant, le fait d'être plusieurs, de mutualiser les achats de papier et de courant, ben, ça permet quand même aussi d'avoir le travail très, très efficace des secrétaires. Le manque de praticiens, de médecins, dans la région, que ce soit bon, la mairie de Quéran qui a fait quelque chose et Vaulvrecourt, mais il y a un médecin qui est parti, qui n'a pas été remplacé. Plusieurs médecins partent en retraite et ne sont pas remplacés. Il y a un a priori négatif, charge de travail énorme, temps de travail à n'en plus finir, congé au lance-pierre. Pour organiser, c'est pas simple. Ça reste le problème majeur. Là, tout de suite, il y a quelques minutes, mon collègue me dit « j'ai annulé 7 personnes ». Donc il a annulé 7 patients à domicile parce qu'il ne pourra pas les voir, parce que il y a un temps limite. On ne peut pas surcharger les journées. Et effectivement, il y a beaucoup de travail, en tout cas en kiné. Et même les médecins ont aussi des fois parfois du mal à trouver des remplaçants. C'est une zone rurale. Les jeunes praticiens veulent aller au sud, au chaud ou dans une grande ville. Mais là, un assistant arrive là, il doit être midi. On peut le faire travailler à midi et quart, hein. Il peut commencer tout à l'heure. C'est vrai qu'on souffre d'un déni géographique, j'ai envie de dire. Hein. Dès qu'on annonce Croisy ou la campagne, hein, j'étais auparavant bien loin d'ici, et c'était le même souci. C'est où t'es à la plage, où t'es à la montagne, et la plage a plus de... est mieux côté, quoi. Il y a les gens du village qui viennent, mais il y a aussi les gens à côté qui, des fois, viennent en covoiturage ou en bus, ça peut arriver. Il y a une proximité qui est nécessaire, je pense, pour que les soins soient dispensés correctement. Ça, c'est clair. Ouais.
C'était donc François Deguine, hein, qui est kinésithérapeute à la maison médicale de Croisy. Parlons justement de l'accès aux soins, monsieur Lacoste. Est-ce que la région est aujourd'hui en capacité de mettre en place une politique d'aide financière aussi pour faciliter l'installation des médecins en milieu rural ou encore dans les quartiers défavorisés?
Ça dépendra des décisions que prendra le conseil régional. C'est vrai que Globalement, tout le monde parle des mesures incitatives. Oui, pourquoi pas. L'essentiel, et c'est ce que il vient d'être clairement expliqué dans le témoignage, c'est que les professionnels de santé aujourd'hui veulent travailler ensemble. Et c'est ça la clé du succès. Le médecin de campagne de nos grands-pères ou de nos pères, ça a disparu. Pourquoi ? Parce que l'intérêt du travail et la sécurité du travail quand on est professionnel de santé nécessite de plus en plus de travailler à plusieurs. Donc, oui, pourquoi pas des mesures incitatives, mais il faut comprendre aussi qu'on a besoin de donner les moyens à des professionnels de santé de travailler ensemble. C'est le cas des maisons pluridisciplinaires de santé, ça peut être fait sous d'autres formes. Moi, j'ai plutôt tendance à pas vouloir systématiquement financiariser les choses. Ce qui est le plus important que les moyens et les allègements qu'on peut donner, qui ne font pas de mal, hein, c'est avant tout de bien comprendre que maintenant, le médecin généraliste qui travaillait tout seul dans son cabinet, souvent en habitant juste à côté de son cabinet, ça s'est terminé, ça n'existe plus et ça n'existera plus jamais. C'est avant tout un exercice regroupé. Ce qui veut dire que dans la région, si je fais la moyenne, surtout Nord-Pas-de-Calais, Picardie, il y a des régions qui ont moins de professionnels de santé que nous et qui ont un état de santé qui est tout à fait convenable. Hein. Pays de la Loire fait, a pas du tout les problèmes de santé que l'on a et a moins de professionnels de santé. Centre-Val-de-Loire aussi. Par contre, ce qui est d'important, c'est l'inégalité de répartition dans la région. Et là, ça touche principalement le département de l'Aisne dans la Picardie, un peu certains secteurs de la Somme. Après, sur l'Oise, ça s'améliore un peu parce qu'il y a la proximité de Paris. Mais c'est avant tout ces questions de répartition et d'inégalité qui sont importantes. Plus, donc là, c'est avant tout une grille de lecture entre le milieu urbain et le milieu rural, qui va se mélanger avec des points de vue de densité et de concentration de l'offre qui sont très importantes. Après, maintenant, pour ce qui est des quartiers défavorisés, là, c'est beaucoup plus des phénomènes d'inégalité sociale. On a des personnes qui très souvent se sentent loin du professionnel de santé, plus socialement qu'en termes de temps d'accès. Et là, c'est tout un travail de fond qui est à faire dans ces quartiers, mais pas plus dans les Hauts-de-France que dans les autres régions. On a exactement les mêmes questions qui se posent à Toulouse ou à Montpellier.
Monsieur Daugimont, vous parliez de l'hôpital hors les murs avec le centre hospitalier de Douai. Vous le voyez, ça, ces difficultés de praticiens de ce fait-là autour du centre hospitalier de Douai ?
Oui, parce qu'on a fait une démarche où on a souhaité se rapprocher des médecins libéraux pour justement mesurer leur qualité d'exercice, la diversité de ces conditions d'exercice. Et moi, je rejoins tout à fait ce que dit Olivier Lacoste, c'est qu'on voit que le médecin de famille implanté en ruralité, on le voit encore dans certains secteurs, mais ça reste un niveau d'exercice qui est en voie de diminution, parce que ce sont des personnes qui sont maintenant de plus en plus épuisées aussi. Et face à cet épuisement, je pense que c'est effectivement la possibilité de travailler ensemble, conjointement, de retrouver du plaisir à l'exercice pluriprofessionnel entre les infirmières, les kinés, les sages-femmes, tel qu'on l'a entendu dans votre reportage. C'est ça qu'il faut. Olivier Lacoste a une belle métaphore pour lutter contre les déserts médicaux. C'est dire partout où on crée des maisons de santé pluriprofessionnelles, on pose finalement des punaises sur une carte qui empêche à un moment donné, sinon, le délitement de ces professionnels de ville, mais qui va entraîner à un moment donné le risque, c'est la mort d'un village. Il y a déjà des services publics qui sont en fermeture, on pense généralement au poste, à des, entre guillemets, peut-être des services publics qui n'en sont pas, mais qui sont des lieux de sociabilité, qui sont le café, qui sont ces lieux de commerce. Et je pense que ces maisons de santé pluriprofessionnelles peuvent être une manière non seulement de lutter contre la désertification, mais de favoriser aussi, à un moment donné, l'implantation des entreprises. Parce que vous êtes entrepreneur, vous voulez recruter des gens, vous voulez les amener à vivre et à travailler. Soit vous êtes en bordure des axes autoroutiers, soit vous êtes déjà dans des métropoles, mais quelque part, du coup, on a un effet de crépine d'aspiration sur des mégalopoles qui, à un moment donné, vont être complètement engorgés. Soit vous pouvez choisir, à un moment donné, la qualité de vie pour vos employés, pour vos salariés, pour vos cadres. Mais dans cette qualité de vie, la prise en compte des problématiques de santé, elle sera vraiment déterminante. Donc je pense que Agir de manière incitative, c'est bien, mais les politiques ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir avec de l'investissement. Mais derrière, s'il n'y a pas cette volonté de travail en commun, ils n'auront rien. Et on voit, on a des expériences dans notre région, où on a des maires qui ont fait le maximum pour pouvoir bâtir des futurs cabinets. Le cabinet est là, mais il ne sera pas forcément occupé, parce que derrière, il n'y a pas forcément cette volonté de travailler ensemble. Donc c'est réunir les acteurs autour d'un projet de soins dans une ville, sur un territoire, et sur cette base-là, accompagner ces professionnels.
Alors vous parliez justement des axes routiers en milieu rural, mais comme dans des quartiers quelquefois défavorisés, les habitants font face à un problème de mobilité. On en parlait hein, dans le reportage, justement, on l'entendait. Est-ce que justement nos élus régionaux ils peuvent favoriser un développement des transports aussi, à proximité de ces nouvelles maisons de santé qui se créent en région ?
Il y a effectivement, les politiques ont une partie de la réponse. Aider à des transports en commun, je pense que c'est effectivement important. Après, je pense qu'il y a tout le rôle des associations qui font déjà un travail énorme, notamment en termes de réinsertion d'aide pour passer le permis de conduire, tout ce qui existe autour de cette mobilité individuelle qui est d'autant plus nécessaire qu'on est dans le milieu, dans le monde rural. Je pense que c'est toutes ces démarches-là, toutes ces belles initiatives sur lesquelles il faut, et c'est déjà ce que vous faites, mais c'est communiquer, mettre en exergue tout ce qui se fait bien dans notre région, qui vont permettre à ces personnes d'accéder à la santé et d'accéder à l'emploi, parce que les deux sont quand même intrinsèquement liés.
Et pour Monsieur Lacoste, justement, c'est un constat général, mais on aurait tendance à consulter tardivement, justement, dans la région, nouvelle région Hauts-de-France. Doit-on donc revoir les campagnes de sensibilisation aussi, de dépistage ? Pourquoi pas développer davantage des actions de santé, même en milieu scolaire ?
Alors, la question du recours tardif, c'est une belle question. Justement, on vient d'y consacrer un travail qu'on va présenter bientôt, donc c'est bien, vous en avez la primeur. Je veux dire que cette idée de recours tardif, on en est un peu, nous, l'Observatoire régional de la santé, responsable, parce que c'est une interprétation de travaux qu'on a menés il y a quelques années. Le recours tardif, ça expliquerait beaucoup de choses, hein. Ça expliquerait que on a beau avoir une offre de soins, on a toujours ce résultat d'état de santé. Pas de chance. On a aujourd'hui, je ne vous dis pas que ce recours tardif n'existe pas, mais on n'a rien pour le documenter. On n'a aucune étude qui le mette en évidence. Donc ça va faire partie des propositions qu'on fera aux instances sanitaires dans les semaines qui viennent. C'est, il faut absolument mettre en évidence ce recours tardif, et puis c'est un recours tardif qui ne peut pas exister partout, hein, et ce n'est pas encore un recours tardif qui doit toucher tout le monde, autant les hommes que les femmes, les enfants, les adultes, les personnes âgées, tous les milieux sociologiques, c'est pas possible. Donc là, il va falloir bien travailler pour savoir si ce recours tardif existe, ce qui est plutôt ma façon de voir les choses, et s'il existe, comment il se manifeste. Dernière chose qui est un peu gênante, cette thèse de recours tardif n'existe que dans le Nord-Pas-de-Calais, n'a jamais été évoquée dans la Picardie, et là où c'est le pire, c'est que ce n'est jamais évoqué dans aucune autre région de France, ni au niveau national. Donc on a une espèce de régionalisme qui fait que, bon, je veux bien qu'il y ait du recours tardif, mais il va falloir le mettre en évidence. Et puis, mon esprit un peu persifleur permet aussi d'évoquer que le recours tardif, ça excuse beaucoup de choses, hein, dans ce manque de performance qu'on a rencontré dans les années dernières. Et puis, c'est un petit peu facile d'accuser la population et le patient en lui disant « tu viens pas à temps quand nous, on a décidé qu'il fallait que tu viennes ». Il y a peut-être tout ce travail d'essayer de comprendre comment on peut rapprocher les professionnels de santé et l'offre de soins de la population. Hein, parce que c'est assez facile de à chaque fois renvoyer la patate chaude sur la population en disant « vous êtes trop ceci ou vous êtes trop cela pour qu'on arrive à bien vous soigner ».
Pourtant, je me souviens une phrase que vous avez citée, monsieur de Gimont, comme quoi vous voyez malheureusement certaines personnes qui viennent à l'hôpital pour y mourir. Parce qu'ils consultent trop tard. Il y a ce constat dans les territoires quand même que la population du Nord-Pas-de-Calais, quand on reprend l'ancienne région, notamment du bassin minier, a cette mentalité de non, je ne vais pas consulter, je vais bien, même s'ils traînent des choses pendant des années. Vous le voyez ça, vous ?
Oui, on le voit nécessairement parce que quand vous avez des situations sociales extrêmement difficiles, quand vous avez des mamans qui vivent, qui élèvent seules leurs enfants, et bien dans ces familles monoparentales, à un moment donné, la personne moralement va refuser de se soigner en se disant « mais je ne peux pas laisser mes enfants pendant une semaine ou pendant 15 jours pour se faire opérer ». Donc face à ça, c'est là où il faut que le système de santé il évolue. Donc ce qu'on développe déjà, par exemple, c'est la chirurgie ambulatoire, c'est se dire « la personne elle va rentrer le matin, le soir elle sera sortie, elle va pouvoir retrouver ses enfants ». Après, il y a effectivement l'accès au transport en commun dont vous parliez qui peut être effectivement important. Il y a aussi ce contre quoi il faut que nous luttions, c'est la méconnaissance par les gens de leurs droits. Parce que quand vous avez la CMU, vous n'avez pas nécessairement connaissance des parcours de santé, de ce à quoi vous avez le droit, de ce sur quoi vous serez remboursé. Et quand vous devez faire à un moment donné un arbitrage entre votre santé et la nourriture pour vos enfants ou le ticket de bus, et ben vous n'allez pas faire l'arbitrage sur finalement ce que vous avez l'impression que vous pouvez reporter ou décaler dans le temps.
Par rapport à la question du dépistage, justement en milieu scolaire aussi, une sensibilisation par rapport à ça, mais même à d'autres problèmes, où ça en est aujourd'hui, est-ce qu'il faut beaucoup plus développer justement face au constat dans la région ?
Oui, on a tellement de priorités d'enjeux dans cette région qu'on ne peut jamais dire non, c'est une mauvaise idée. Oui, effectivement, il faut accroître tout ce qui est prévention, promotion de la santé en milieu scolaire, et c'est relativement bien fait aujourd'hui. Ceci dit, on n'a pas des moyens à mettre partout, et voilà, va falloir être un peu raisonnable. C'est vrai que la question du dépistage qui ne touche pas les scolaires, mais qui va toucher des personnes beaucoup plus âgées, hein, puisque au horreur, ça va toucher des personnes de plus de 50 ans. C'est pas dans les milieux scolaires qu'il va falloir le faire. Et là, oui, il y a de gros enjeux en ce moment pour essayer de comprendre pourquoi les campagnes de dépistage en milieu précaire ont beaucoup moins d'efficacité que dans la population courante. Ça, c'est un des gros enjeux. Ça s'appelle dans notre langage la recherche interventionnelle, c'est-à-dire qu'on fait une recherche pour essayer de comprendre quand on fait une intervention auprès de milieux précaires, qu'est-ce qui fait que j'ai du succès ou qu'est-ce qui fait que ça ne change rien du tout. Et là, c'est toute l'accumulation de savoir-faire que j'évoquais tout à l'heure qu'il va falloir continuer à pousser, à capitaliser.
Et malgré toutes ces campagnes de sensibilisation, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la population du Nord-Pas-de-Calais-Picardie est tout de même actrice de sa santé?
Et oui, c'est tout l'enjeu qu'il faut, un des enjeux, c'est pas le seul, un des enjeux sur lequel il faut pousser. On a des raisons de penser qu'on a une population, en termes médicaux, on décrit comme compliante, c'est-à-dire qui va dire oui, qui va faire, mais qui ne posera peut-être pas autant de questions que ce qu'il faudrait. Et puis, vous savez qu'on est en difficulté économique, et qu'on a des problèmes pour dépenser, on a du mal à penser demain quelle sera ma santé. Il y a des urgences à prendre aujourd'hui, et tout ça, c'est ce que le système de santé doit comprendre et dont il faut tenir compte plutôt que de renvoyer toujours à la population, c'est de votre faute. La question de la mobilité qu'on évoquait tout à l'heure, oui, il faut des moyens de transport, et moi je suis très sensible à tout ce qu'on appelle les modes de transport actifs, c'est-à-dire le vélo, etc., etc., qui va en plus permettre de travailler son cardiovasculaire, d'avoir moins d'obésité, etc. Mais la question du déplacement, c'est avant tout une question sociale. Quand on est dans un quartier défavorisé, souvent, pas toujours, hein, il n'y a pas d'automatisme, on se renferme dans son quartier, le quartier d'à côté, on n'y va jamais. Et donc toute la question de la mobilité, c'est comment on fait pour accompagner des personnes pour qu'elles aient envie de bouger. Et ça, c'est en termes budgétaires, c'est pas de l'investissement, hein, ça va pas être mettre en place un système de vélo ou des lignes de bus, ça va être d'avoir des travailleurs sociaux qui viennent prendre les gens par la main en leur disant regardez le quartier d'à côté, c'est pas des ennemis et vous pouvez y aller. C'est ça l'enjeu.
Nous allons poursuivre cette discussion après une petite pause musicale et notamment nous allons écouter les Nana Fêlé, leur titre « Les suppositoires ».
Elle en avait marre de vendre des suppositoires. Derrière son comptoir, elle avait le regard hagard. Elle en pouvait plus des médecins de la sécu, des petits granulés, de l'aspirine en sachet, délirium très mince, cholestérol en hausse. Je veux le régime qui tue car je me trouve un peu grosse.
juste s'envoler sur un tapis volant, suivre Aladdin dans une théière, filer vers l'Orient, flotter sur le Gange, renifler l'odeur forte de l'encens, et pourquoi pas chatouiller de l'Everest le flanc, le flanc.
Donnez-moi une boîte d'Imodium et du Prozac. Depuis que je ne dors plus, y a ma vie qui fait des couacs. Ah, puis-je oublier un petit peu des feralgans. Je sens depuis peu, je sens comme un mal dedans.
Parlons Franf,
le magazine mensuel de la Franf,
la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Continuons notre émission Parlons Franf consacrée à la santé en compagnie de Monsieur Lacoste, directeur de l'Observatoire régional de la santé en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et de Monsieur Daugimont, directeur du centre hospitalier de Douai. Avec Julien Maille de Radio Plus, nous allons aborder la question du vieillissement et de la paupérisation de nos habitants.
Tout à fait, Marjolaine, et la paupérisation des habitants, voilà sans doute une des raisons qui incite les collectivités locales à mettre en place des mutuelles collectives, un véritable service proposé aux administrés dans l'objectif de réduire leurs frais de santé. Je vous propose de nous pencher sur l'exemple de la CCFL, communauté de communes de Flandre-Lys, qui recense une quarantaine de milliers d'habitants et qui tente de mettre en place une mutuelle de ce type. Au micro, on va retrouver Arnaud Ratt de l'association Axiom, qui est prestataire de services dans la mise en place des mutuelles collectives.
L'association Axiom, qui est une association qui a pour but de proposer des mutuelles aux citoyens. On est, nous, des professionnels de la santé, donc en tout cas de la santé, de tout ce qui est solution, prévoyance, mutuelle au niveau de d'une activité de courtage qu'on a par ailleurs.
On a l'impression qu'il y a un boom justement des mutuelles communales. Est-ce que vous le confirmez et comment est-ce que vous l'expliquez ?
En fait, le principe de l'association, il est simple, c'est d'essayer de redonner du pouvoir d'achat aux personnes qui en ont besoin et notamment des retraités, parce que c'est vrai que la solution santé et la mutuelle devient extrêmement coûteuse. Donc le principe, c'est par la mutualisation de réduire les coûts au maximum et de proposer quelque chose qui soit intéressant au plus grand nombre. Donc forcément, ça attire de plus en plus de monde. On le voit bien ce soir, hein. on a encore eu du monde qui est venu en tout cas nous écouter, essayer de faire un gain de pouvoir d'achat et de bénéficier de garanties plus importantes que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on a démarré à Ouascal, on va dire, sur une grande ville. On a fait des permanences, on a reçu des citoyens qui ont été contents. Ils en ont parlé à d'autres personnes et on a eu les communes environnantes qui se sont greffées parce que le système plaît et qu'il y a un vrai gain financier pour les citoyens en tant que tels.
Geneviève Fermentel est élue à la CCFL, communauté de communes Flandre-Lys, en qualité de vice-présidente. Cette collectivité locale tente de mettre en place avec le prestataire de services Axiom, que l'on vient d'entendre, une mutuelle au service des habitants. Madame Fermentel nous livre son point de vue sur ce boom du développement des mutuelles collectives.
Alors, un emprunt, oui, mais c'est un vrai service à la population. Comme je le disais tout à l'heure, les personnes âgées se retrouvent avec des problématiques de santé. Étant sorties du monde du travail, la prise en charge groupe, ils ne l'ont plus. Et les cotisations sont élevées. D'après les questionnaires qu'on a eus, on tourne sur une moyenne de 120 à 150 euros en moyenne par couple. Donc c'est quand même un budget pour les couples. C'est tout simplement qu'il y a un besoin, donc essayons de répondre aux besoins. Les communes ont des budgets restreints, quelquefois les personnes ont des budgets restreints. Si on veut les aider au mieux, les CCAS ne peuvent pas toujours répondre parce que les finances ne répondent pas toujours. Et essayer de répondre en amont, c'est peut-être préférable.
Et justement, par rapport à cet emprunt, est-ce qu'il y a une aide du département, de la région pour mettre en place ce genre de projet ou est-ce que c'est exclusivement piloté par, que ce soit sur le plan administratif ou financier, par les collectivités et les intercoms ?
Alors, non, il n'y a pas d'aide, du département, de la région. La communauté de communes n'est qu'un interface, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation les personnes qui ont besoin d'une mutuelle et l'association Axiom qui est en capacité de répondre aux besoins. Il faut savoir que il n'y a pas de finances réellement de la CCSFL qui ont été dédiées à cela. On a utilisé, même si le terme n'est pas très joli, des personnels de la CCFL pour établir les questionnaires, pour les dépouiller, pour organiser des réunions, mais ça ne va pas au-delà. La CCFL n'engage pas de finances par rapport à cette mutuelle collective.
Donc ça veut dire que le coût est de zéro pour mener cette opération ?
Oui, si on exclut aller une centaine d'heures du personnel de la CCFL, oui, c'est un coût zéro.
Voilà, et à l'instant, vous venez donc d'entendre Geneviève Fermentel, élue à la CCFL, Communauté de communes de Flandre-Lys, en charge de la mise en place d'une mutuelle collective sur le territoire, précédée d'Arnaud Ratte de l'association Axiom, prestataire de services dans la mise en place de ces mutuelles collectives. Alors, Renaud Degimont, Olivier Lacoste, est-ce que vous constatez un développement des mutuelles collectives, à proprement parler ?
Donc on sait qu'il y a quelques expériences qui se mettent en place, visiblement avec succès. Sur les élus du Douaisi, on a des démarches, mais qui sont davantage au stade de la gestation que de la manifestation effective. On sait que c'est une tendance qui se développe. Pour l'instant, on ne la voit pas de manière significative dans les établissements de santé sur le Douaisi et le Saumesnois.
Alors, le développement de ces mutuelles collectives, c'est quelque chose qui est en train d'être en plein essor, un véritable marché économique. Est-ce que ça peut véritablement nous inciter à prendre soin de notre santé ? Et est-ce que ça ne marque pas un peu plus le désengagement de l'État en matière de santé publique ?
C'est un risque. En même temps, au vu des contraintes financières qui sont quand même assez importantes, du vieillissement de la population qui va arriver, soit on continue de tout attendre de l'État et on risque beaucoup de désillusions parce qu'on projette nos désirs sur un État qui n'est pas en capacité d'y répondre de manière individuelle, soit on se prend en main. Ce qu'on voit arriver, ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, c'est-à-dire essayer de donner aux gens des ressources personnelles, une éducation à la santé, une pratique du sport, pour diminuer au maximum les chances d'être dépendant dans le grand âge, ça je pense que c'est des choses qui peuvent se mettre en place, et je pense que c'est aux citoyens de prendre vraiment la main sur ça, de s'organiser. Par exemple, on a des expériences sur le Douaisis, où on a des associations d'allocataires du RSA qui se mettent en place, qui vont ensemble développer des programmes. Nous, on va les accompagner dans les mois à venir sur ce volet éducation à la santé. Je pense que maintenant, il faut qu'on ait cette démarche et que ce soit un sursaut citoyen.
Voilà. On en revient à cette notion d'acteur de sa santé, finalement.
Tout à fait. Oui, c'est un des points importants. Et puis, vis-à-vis d'un éventuel désengagement de l'État, il faut être aussi exigeant sur les priorités qui sont retenues. Est-ce que ça correspond aussi à des nécessités scientifiquement démontrées et puis à une attente de la population ? Aujourd'hui, les budgets de la santé, ils sont clos. Ils ne vont pas, on n'a pas... Il faudrait vraiment être assez réaliste pour s'imaginer que ça va augmenter sans cesse. Donc l'enjeu de choisir ses priorités est un enjeu qui est capital. Et c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à faire dans cette région de Hauts-de-France, où vraiment c'est la pléthore d'enjeux majeurs de santé publique et de priorités. Donc là, il va bien falloir faire des choix. Je sais qu'aujourd'hui, le conseil régional a choisi le cancer, la maladie d'Alzheimer qui est liée au vieillissement, et la question de l'accès aux soins et de la démographie des professionnels de santé. Il faut faire des choix.
Et du coup, ça veut dire aussi que la possibilité d'une incitation de la part du conseil régional à développer ces mutuelles collectives qui étaient évoquées dans le reportage, c'est une utopie aujourd'hui ?
Je suis pas à leur place, non, ça serait pas une, je sais pas pourquoi ça serait pas une utopie. Je tiens quand même à rappeler que on a la chance d'avoir un conseil régional qui s'investit sur la santé. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a quelques régions qui font de la santé, mais pas du tout à la hauteur de l'investissement du Conseil régional des Hauts-de-France. Il faut aussi pas perdre de vue l'ampleur, l'enjeu que représente 30% de surmortalité sur 6 millions d'habitants. Hein. On a quand même 6 millions d'habitants. Je vous rappelle que c'est autant que la population du Danemark. Donc c'est des enjeux considérables, donc ce qui peut aussi expliquer qu'on ait un conseil régional qui s'investisse de façon considérable. Mais on ne peut pas tout attendre d'une collectivité territoriale qui par ailleurs se fait ratatiner ses budgets, comme tout le monde, avec un désengagement de l'État. Il faut être raisonnable, d'où l'enjeu de choisir ses enjeux. C'est vraiment quelque chose de très important et qui pourrait mériter d'être un peu, peut-être un peu plus discuté. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait des enjeux.
Jérôme.
Alors justement, Renaud Daugimont, vous, par rapport au centre hospitalier de Douai, j'avais vu qu'on vous incite à faire un rapprochement avec le centre hospitalier d'Arras, mais pas être sous sa coupe. Il y avait justement le fait de pas vouloir se rapprocher forcément uniquement d'Arras, mais surtout de Somain. Et justement, on revient à ce désengagement de l'État, finalement, avec ce problème en ce moment que vous avez évoqué, je sais, avec Frédéric Chéreau à Somain.
Oui, il y a eu. Enfin, là-dessus, c'est un peu anecdotique par rapport aux enjeux de la population, mais je parlais tout à l'heure des rapprochements entre établissements de santé. Il y a eu effectivement une réflexion l'année dernière sur les découpages des territoires et la convergence entre certains établissements. Après, je pense que ce qui est important, c'est que d'avoir des établissements de santé. Au-delà de ces logiques de rapprochement qui, en l'occurrence, entre Arras et Douai, des logiques de rapprochement qui n'auront pas lieu, je pense qu'il faut davantage se dire quel est l'esprit du législateur, qu'est-ce qu'il veut. Je pense que l'attente du législateur, c'est un engagement fort des hôpitaux sur leur territoire. C'est des projets médicaux de territoire qui ne soient pas des projets pensés pour le territoire, par les hôpitaux, mais bien dans lequel on va mobiliser les acteurs de soins libéraux, dans lequel on va mobiliser les citoyens. Et donc nous, c'est le pari qu'on a pris effectivement avec Frédéric Chéreau, le maire de Douai, le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Douai, c'est se dire comment on travaille dans la proximité, sur le terrain, auprès des centres communaux d'action sociaux, auprès des Restos du Cœur, auprès des élus qui, eux, ont la connaissance des enjeux qu'ils rencontrent soit sur leur village, soit dans leur ville, soit dans leur communauté d'agglomération, voir comment est-ce qu'on travaille. Donc c'est l'enjeu sur lequel nous on va travailler dans les années à venir. C'est un projet médical de territoire partagé.
Alors justement, aujourd'hui, vu le constat dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais Hauts-de-France, il ne faut pas faire d'économie en matière de santé aujourd'hui aussi. C'est peut-être un peu ce qu'on incite, enfin ce que l'État incite à faire quelquefois dans une région fortement impactée pourtant.
Pour moi, l'enjeu, il n'est pas de faire des économies, il est d'essayer de soigner les gens autrement et de changer les organisations. Il faut passer d'une logique où, de toute façon, à un moment donné, on n'a plus de sous supplémentaires à mettre dans la santé. Il faut être clair, on a un niveau de croissance économique qui est en berne, et on a désormais à peu près 10% de la richesse nationale qui est chacun investi dans la santé. L'objectif, c'est pas de faire passer à 11 ou 12%, sinon ça sera pas, soit pas tenable, soit ça sera au détriment d'autres priorités qu'attendent les Français. Donc on ne peut pas avoir 50 000 priorités. Enfin, quand vous êtes dans votre foyer et que vous définissez une priorité, c'est bien en fonction d'une somme d'argent qui est contrainte et qui est existante. C'est le principe de réalité. Donc là, l'enjeu pour moi, monsieur, ce n'est pas de diminuer les dépenses, c'est de soigner autrement, comme disait Olivier Lacoste. Soit on continue de se dire c'est de la faute des usagers, ils s'en servent mal, soit à un moment donné, on se questionne pour savoir pourquoi l'usager, dans plus de 50 ou 60% des cas, il passe d'abord par les urgences, où il se retrouve confronté à des urgences vitales, où il va attendre pendant des heures, plutôt que de se retrouver directement dans l'hôpital, dans le bon lit, dans le bon service. Et ça, c'est les parcours de soins sur lesquels il faut travailler entre la ville et l'hôpital. Donc c'est pas soigner moins, c'est soigner mieux dans une approche de qualité et d'humanité des prises en soins des patients.
Vous en revenez à l'hôpital, alors les murs, oui. De ce fait-là, en parlant de ça, le fait d'aller rencontrer les habitants, que ce ne soit pas eux qui viennent vous voir en premier.
Oui, parce que vous avez raison, et Olivier Lacoste l'abordait tout à l'heure, vous avez des pratiques culturelles ou des pratiques cultuelles qui font qu'on a un regard différent sur la manière de se soigner. Vous avez encore des croyances issues de notre éducation ou notre environnement social qui fait quelque part, moi, tant que je me dépiste pas, c'est que je suis pas malade. Parce que le fait de me dépister, peut-être qu'il peut... Vous voyez, on est dans le domaine de pas forcément du rationnel. Donc c'est là où c'est à l'hôpital de se déplacer, à être aux côtés des professionnels de ville, et à essayer de faire changer ses habitudes et exprimer très concrètement comment ça marche un dépistage. Et à essayer de faire en sorte que, par exemple, pour le dépistage du cancer colorectal, où on sait qu'on a 3 fois moins de personnes qui sont dépistées sur ce cancer-là dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Douaisis par rapport au reste de la France, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens, à un moment donné, intègrent qu'il faut se faire dépister, que dans 90% des cas, ils vont être rassurés, parce que 9 fois sur 10, le problème de sang dans les selles, ça peut se régler autrement. Et que dans les 10% où il y a autre chose, les chances de succès, le cancer colorectal, c'est celui qui se guérit le plus rapidement. Donc c'est là où on a tout un travail de formation auprès de nos citoyens pour qu'ils se réapproprient leur propre santé.
Et au niveau du territoire, au niveau de cette grande région, est-ce que l'exemple du centre hospitalier de Douai... s'est multiplié dans d'autres centres hospitaliers, donc à travers des opérations de santé de proximité.
Il y a des opérations de santé de proximité, mais au point où l'entend le faire Douai, non. Mais le projet de Douai est bien adapté aux nécessités locales du territoire qui dessert. Ce serait de la folie furieuse de vouloir transplanter ça sur l'hôpital de Saint-Quentin ou sur autre chose. Oui, c'est évident. Je tiens à revenir un peu en arrière. C'est pas tellement une question de faire des économies. Hein, imaginez, vous êtes le budget de la santé, c'est comme votre budget ou le mien, il est pas extensible. C'est de choisir qu'est-ce qui produit le plus d'effets pour telle somme injectée. L'important n'est pas tellement de dépenser moins, c'est de voir comment j'ai le plus d'effets produits. C'est ce qu'on appelle, et c'est pas un gros mot, c'est ce qu'on appelle l'efficience. L'efficience, c'est pas dépenser systématiquement tout azimut parce qu'il y aura tel ou tel mouvement d'opinion qui le voudra, c'est de savoir qu'est-ce qui a le plus d'impact, et ça c'est important.
Alors, la population vieillissante exprime souvent le souhait de rester chez elle. Du coup, est-ce qu'il y a une complémentarité, une volonté de complémentarité des acteurs de santé pour développer les soins à domicile ?
Oui, beaucoup. Vous avez la chance d'avoir dans le Nord-Pas-de-Calais beaucoup d'hospitalisations à domicile qui se développent. Il ne faut pas oublier le rôle, mais vraiment essentiel, des professionnels de ville, des infirmières libérales qui jouent un rôle vraiment très conséquent, qui sont au quotidien aux côtés de ces personnes. Donc je pense que ça, c'est très important. Après, il faut que l'hôpital sorte aussi. 95% des personnes âgées sont pas, ou 99% sont pas à l'hôpital. Elles sont effectivement à leur domicile. Et c'est là où il faut qu'on minimise au maximum la fréquence, les passages, les hospitalisations qui sont évitables pour ces personnes âgées, le passage par les urgences. Il faut se battre vraiment, et ça c'est la mission des hospitaliers, de se battre pour éviter ces passages au maximum. Donc c'est pour ça qu'à titre d'exemple, pour l'hôpital de Douai, on va développer une gériatrie, spécialité qui pour l'instant est purement hospitalière, on va la développer dans les maisons de santé pluriprofessionnelles pour reculer au maximum l'arrivée dans l'hôpital, et si c'est nécessaire de faire un passage à l'hôpital, que ce soit ce qu'on appelle de l'hospitalisation programmée, c'est-à-dire madame, vous êtes attendu à telle heure, tel jour de la semaine, directement dans un lit, dans le court séjour gériatrique, et pas un passage où vous allez vous retrouver parmi 250 ou 300 personnes dans le service des urgences.
Oui, pour les personnes âgées de la région, faut pas faire de particularisme. On a les personnes âgées que l'on aurait dans d'autres régions. L'enjeu, c'est qu'elles puissent bénéficier des mêmes dispositifs et des mêmes mesures que les personnes âgées de Poitou-Charentes ou de Grand Est bénéficient. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est ça aussi l'enjeu de... on parlait des jeunes tout à l'heure. On a des jeunes qui ont un état de santé comparable à ailleurs. On n'a pas des jeunes aussi... et anormaux que dans d'autres régions, on a à peu près les mêmes. Là où l'enjeu se pose dans cette région, et ce qui est très difficile à régler, c'est que l'état de santé, il est mauvais aux âges où on doit travailler. Et c'est pas, donc, quand on parle des personnes âgées, finalement, on est au-delà du retard du noyau dur du problème de santé dans cette région. Quand on parle des jeunes, on est avant. La question se posant, comment se fait-il qu'on ait des jeunes qui vont bien et arriver à l'âge actif, tout se dégrade. Il ne faut pas oublier que dans cette région, on a 10 000 décès en trop tous les ans. Et ça va faire depuis 10 000 décès sur Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et ça va faire depuis 1950 que ça dure. Hein. C'est-à-dire que 10 000 décès, c'est plus que l'ensemble des décès par accident de la route en France.
Julien, dernière question.
Oui, Renaud de Gimont, vous êtes le directeur du centre hospitalier de Douai. Au travers de tous les constats que vous avez faits depuis le début de ce magazine, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas plutôt à l'hôpital un gestionnaire des problèmes de santé au détriment de la mission première de l'hôpital qui est de soigner ?
Non, je pense que le soin, c'est la mission de base des hôpitaux. Mais maintenant, je pense que le contexte de santé au niveau national légitime que les hôpitaux fonctionnent autrement. L'hôpital n'a eu de cesse d'évoluer. Hein. L'hôpital, si on reprend il y a 200 ans, c'était un hospice pour les vieillards. Si on reprend il y a 100 ans, c'était un dispensaire pour les pauvres. Si on se place dans les années 50, c'est devenu la vitrine technologique parce qu'il y a des gens qui ont été des visionnaires et qui ont dit l'hôpital public a toute sa place en France et peut devenir une vraie vitrine de ce que le savoir-faire et l'intelligence française et la science française peuvent proposer. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que cet effort qu'ils ont fait, ça a permis entre 1965 et 1980, on a eu 15 prix Nobel de médecine. français. Donc c'est extraordinaire, on a un savoir-faire en France que beaucoup de pays seraient très contents d'avoir chez eux, et il n'y a qu'à traverser la Manche. Pour se rendre compte du décalage, il y a eu des articles récents dans la Voie du Nord quand on a eu les premiers patients anglais qui se sont fait soigner à Calais. Le fait pour eux d'arriver, de pouvoir être opérés et de passer de chambres collectives, vous avez des dortoirs de 6 ou 8 personnes, à des chambres individuelles, je peux vous dire que pour eux ça a été un changement énorme. Et donc ça veut dire que l'hôpital doit continuer de changer, d'évoluer, et il doit passer, il doit intégrer dans sa démarche, qui sinon va être purement, comme vous le dites, du soin, une démarche préventive, parce qu'on sait que c'est le préventif à la fois qui coûte le moins cher et qui a le plus grand effet de levier et donc d'efficience pour changer les déterminants de santé de la population sur les maladies chroniques, sur l'insuffisance rénale, sur le diabète, sur l'insuffisance respiratoire, sur l'hypertension artérielle. Là-dessus, il faut que l'hôpital soit présent aux côtés des acteurs. C'est-à-dire qu'il doit être suffisamment fort pour se mettre dans les interstices, là où il y a du vide, là où il y a une maison de santé pluriprofessionnelle, mais qu'il manque telle ou telle spécialité. Donc il ne faut pas faire à la place des autres, il faut avoir l'intelligence de se mettre à leur service. Et du coup, l'hôpital, il doit évoluer vers ses fonctions curatives. Et je pense que c'est une des clés et un des remèdes pour que l'état de santé de notre population il s'améliore.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la Franf, la fédération des radios associatives du nord de la France.
Merci à vous, Renaud Daugimont, directeur du centre hospitalier de Douai, Olivier Lacoste, directeur de l'Observatoire régional de santé en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour votre participation à ce magazine Parlons Franf. À la présentation de ce magazine, Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé, Julien Maille de Radio Plus
et Marjolaine Labelle de Radio Boomerang.
Et à la technique, Hervé Dujardin de Radio Scarpe Sensé. Le prochain numéro de Parlons Franf sera consacré à la question du cinéma en Hauts-de-France. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour connaître les réponses à ces questions. D'ici là, portez-vous bien.
Au revoir.